la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, chers lecteurs et chères lectrices, bienvenue dans votre émission littéraire Un livre sur le zinc, en partenariat avec la librairie, la livrerie et la médiathèque départementale de Lozère. C'était le jingle livrerie que vous venez d'entendre. En direct, nous sommes en direct des studios à 48 FM et ce soir nous avons choisi un thème fort, révolte, liberté et révolution. Un thème que nous avions arrêté il y a un peu plus d'un mois alors qu'une insurrection secouait l'Iran et que le peuple iranien se faisait tirer dessus dans la rue. Ce soir, on se retrouve et c'est malheureusement toujours pas gagné pour eux, mais pour d'autres raisons. Alors pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir nos quatre chroniqueuses, Pauline, Marlène, Valérie, Elodie. Bonsoir à vous quatre.
Salut.
Et ouais, ce soir, j'ai changé mes habitudes. J'ai dit bonjour en tir groupé et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Je n'ai pas fait exprès. Alors, sans plus attendre, ouvrons les livres. Pauline, c'est à toi l'honneur d'ouvrir le bal. Tu vas nous parler de « Je mourrai pas gibier » de Guillaume Guéraud, un roman noir jeunesse publié en 2005 qui nous plonge dans Mortagne, un village où deux communautés se déchirent.
Oui, on peut dire ça. Je tiens à préciser quand même que il a été publié dans une collection qui s'appelle Dos à dos noir, et c'est le premier titre de cette collection, et ça a été un premier titre, je pense, vraiment coup de poing. J'ai pas été voir les articles de l'époque, mais voilà, là, le livre dont je vais vous parler, c'est un tout petit livre, donc je vais vous en dire vraiment deux, trois mots. Je ne mourrai pas gibier, la phrase complète, c'est « Je suis né chasseur, je ne mourrai pas gibier ». Voilà, le titre.
Oui, on comprend mieux le titre.
Voilà. Et en fait, je me suis pris une énorme claque. Mais vraiment, un coup de pelle, si je veux tiens parler un peu du livre, parce qu'il y a des coups de pelle dans ce livre. Donc, je vais vous parler des deux premières pages. Je vais peut-être même vous lire un petit passage.
Ah, c'est bien, on aime quand tu lis des passages.
Ouais. Page 9, hein, vraiment, on est au tout début. Il faut récupérer les douilles et le reste, lui a redonné son supérieur. Et là, c'est un ado qui parle. Parce que je ne me suis pas servi que du fusil. Le fusil est venu après. D'abord, j'ai pris les premières choses qui me sont tombées sous la main. Une vieille pelle qui traînait dans le garage et un marteau. Voilà, donc ça, c'est la page, alors c'est la page 9, mais bon, on est dans les trois premières pages écrites. L'ambiance met des claques, voilà, c'est chaque chapitre te met une claque. Ce livre, c'est l'histoire de... Ça nous raconte comment un ado peut se révolter en étant complètement à côté de la plaque, puisqu'on comprend dès les premières pages qu'il va être l'auteur d'une tuerie au mariage de son frère. Mais parce que c'est un ado et parce qu'il ne sait pas comment faire. Il est toujours à côté de la plaque et au bout d'un moment, il pète les plombs et il va prendre un marteau, un fusil, une pelle et il va péter les plombs. C'est un livre qui s'adresse aux ados. Alors moi, je serais un peu, de par mon boulot, un peu prudente sur les mains entre lesquelles je les mets parce que le but, c'est pas de nous dire c'est mal ce qu'il a fait, de nous dire attention aux jeux vidéo, c'est pas du tout le message qui passe là-dedans. C'est comment un ado.
Il est fan de jeux vidéo, le gamin ?
Pas du tout, non. Absolument pas.
Non, c'est dans la nature même, il est très
attaché. Oui, en fait, il vit dans un monde, enfin dans un village de chasseurs où on a ceux qui travaillent à la scierie, qui sont contre ceux qui travaillent dans les vignes. Il se frite tout le temps, hein. C'est un vrai village où on se bat au loto, machin.
Sachant que l'auteur est de Pézenas, donc peut-être c'est très librement inspiré de la campagne picénoise.
Il y a un côté local, hein. Ça se transpose parfaitement en Lozère. Hein, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, on imagine tout à fait cette ambiance dans n'importe quel lieu un peu rural où voilà on se retrouve et puis on se cogne parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire en fait finalement, et lui il en a marre, il essaye de s'éloigner de ça et on ne le laisse pas s'éloigner de ça, on lui met le nez dedans et il pète les plombs comme un ado peut le faire en faisant n'importe quoi. Et donc c'est pas une leçon, c'est pas un message qu'on passe aux ados, attention à vous, c'est plutôt un message, moi je l'ai ressenti comme un message aux adultes, attention aux ados parce qu'ils peuvent péter les plombs et je veux dire on a de la peine pour le héros c'est Martial, on le comprend, on a de la peine, on est mal pour lui, on souffre pour lui, il nous touche et à aucun moment on se dit il est fou ou c'est assez incroyable, c'est un livre de 70 pages hein, vraiment un tout petit bouquin mais c'est incroyable l'émotion que j'ai pu ressentir et ce qui a pu se passer en moi quand je l'ai fermé et tout ce que ça a remis en question sur l'adolescence. C'est un livre qui marque vraiment.
Elodie, tu l'as lu ou pas, vu que c'est toi qui as fait la sélection concernant ce livre ?
Non. Eh bien, à lire.
Je pensais que tu l'avais lu du CDI du collège.
Alors, voilà, ouais. Tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça a sa place dans un CDI de collège ?
C'est à partir de 15 ans.
Bah, c'est ce que j'aurais dit. Plutôt lycée pour moi.
C'est plutôt lycée.
Collège, voilà, j'ai quand même des... Alors, ils n'aimeraient pas entendre ça, des petits. Voilà, à aucun moment, je m'imagine leur mettre ça entre les mains. Donc, c'est grands ados.
Moi, je le propose aux jeunes qui ont envie de lire, enfin, de se remettre à la lecture. Alors, souvent, des jeunes garçons qui ont envie de quelque chose de court, mais que ce soit entre le thriller, mais que ça puisse être réaliste.
Ah bah, à mon avis,
c'est un livre que beaucoup d'adolescents m'endorment dans les mêmes
tubes. Ça m'étonne pas. À mon avis, ça peut déclencher des goûts de lecture. Voilà. Parce qu'on se rend compte avec ça que la lecture, ça peut être plein de choses. Ouais. Je pense que c'est un livre...
Il est doué sur ça. Après, il en avait fait un suivant sur... alors, j'ai perdu le titre, mais je sais plus, c'était un accident de bus scolaire de collégien. Mais c'est pareil, ça commence très, 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 très sombre. Et les comportements des survivants sont un peu dérangeants, mais je crois que il excelle dans ça, en fait. Arriver à captiver le lecteur
et par puis des à choses vraiment se mettre dans la peau d'un ado. Enfin, c'est assez bluffant. Je sais pas comment il a construit ce récit, s'il a interviewé des ados. C'est très, très réaliste, je trouve. Une lecture hyper marquante, vraiment. Je m'en souviendrai longtemps.
Voilà, ce livre fait partie de la petite bibliothèque idéale de Télérama, le tour de la littérature jeunesse en 80 livres, publié en 2020, parce qu'il est, il date, hein, il a eu le prix Sorcière en 2007.
D'accord.
Donc ça date...
Bientôt 20 ans.
Bientôt 20 ans. Guillaume Guéraud, il est de 1972, il a fait du journalisme avant de se lancer dans l'écriture à 24 ans. Et là, il réalise des petites leçons d'écriture impertinentes qu'il appelle des autofilms réalisés avec son téléphone portable, il est publié sur le site de partage de vidéos de YouTube, donc les adolescents peuvent aussi retrouver, voir les adultes.
Et il anime des super soirées cinéma aussi. J'ai perdu le nom.
Trianon.
Non, à côté de Pézenas, à
Castelnaudary.
Non, ça c'est de l'autre côté.
La belle Chorienne.
Le Lez. Non, mais je retrouverai.
Castelnaudary, c'est plus loin. Hein. Oh, ça se voit que c'est pas une émission sur la géographie. Hein. On serait mal barré. Hein. Merci Pauline. Allez, en parler de 15 ans, on va passer un roman à partir de 18 ans. Et bien sûr, c'est Elodie qui va nous le présenter, qui choisit que des romans un peu corsés. Elle a pas, parce qu'elle a pas peur.
Oui, il est dur. Hein. Il est dur ce roman. Alors nous, on est sur la colère ou la révolte de féministes. Hein, donc c'est vraiment un roman pour adultes. On suit l'histoire de Clara. Alors,
c'est Hélène Coutard le livre Explosive.
Voilà, qui est sorti début janvier.
Voilà, et c'est son premier roman.
D'accord. Donc voilà, on suit l'histoire de Clara, qui est étudiante, qui est invisible, enfin en tout cas qui se sent invisible dans la société, et qui dit, voilà, puisqu'on me voit inoffensive, elle nourrit une colère assez sourde contre le système patriarcal, elle dit, je vais me servir de cette invisibilité pour justement me venger des hommes. Et on est sur... Alors, dès le départ, la première scène, on ne sait pas qui explose, mais on, la scène commence par une femme, comme une attaque terroriste, une femme avec une ceinture au milieu d'un groupe d'hommes et qui se fait exploser. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'un féminisme très, très radical et très violent. C'est ça qui est assez intéressant dans ce livre, c'est qu'on parle de la violence des hommes, mais c'est les femmes qui sont les plus violentes, du coup, dans ce livre. Cette Clara, elle est... On voit tout à travers son regard à elle, et elle va se laisser, je sais pas, je dirais, j'ai envie de dire embrigadée, mais enfin, dans une sorte de groupuscule, elle va rencontrer une femme qui s'appelle Harry, qui est une sorte de chef un peu charismatique de ce groupuscule, et qui va, du coup, lui... On comprend que Clara devient la dernière recrue de ce groupe. On ne sait pas trop, alors il y a... Ça vire un peu au polar à un moment donné dans ce livre. On ne sait pas trop ce que sont devenues les précédentes recrues. Donc, certaines ont disparu. Est-ce qu'elles ont été évincées? Elles n'avaient pas le mental qu'il fallait. Enfin, voilà. Clara, elle a ce mental, alors qu'elle est très... on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi, à cette jeune fille. Et non, c'est elle qui est, la plus, finalement, virulente à l'intérieur. Et donc, on est sur une bombe intérieure à exploser, enfin, au sens propre et au sens figuré, tout le long du livre. Donc, je ne vous raconte pas la fin, évidemment. Mais c'est un livre qui est assez dur, qui est assez intéressant, parce que... on ne sait pas trop... on est dans une colère féminine, mais les hommes sont complètement absents de ce livre. Il n'y a aucun homme, en fait. On n'est que sur du ressenti. C'est que les femmes qui parlent. Et même cette Clara, elle n'a pas vraiment vécu de choses. Elle n'a pas été violée, elle n'a pas été battue, elle n'a pas... elle est juste en colère. On est d'une colère qui est latente, comme ça, tout le long. Et donc, on a ce malaise tout le long du livre. Mais c'est très bien écrit, c'est percutant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà.
Hélène Coutard, née en 1991, qui est journaliste aussi et qui écrit pour Society, Le Monde, Madame Figaro, ou encore elle écrit sur les droits des femmes, les zones de conflit et le true crime, le crime réel.
T'es bilingue, introduction. Toi, non ?
Ouais, c'est ça. Alors, elle a écrit deux livres de non-fiction. Alors, je connaissais pas
c'est
ce terme.
C'est du documentaire.
C'est du documentaire avant ce premier roman qui a été quand même remarqué. Publié aux éditions du Seuil pour ses deux premiers. Pour le premier, Les fugitives partir ou mourir en Arabie Saoudite, sa non-fiction. Le deuxième, c'était en 2021 aux éditions du Seuil, La disparition de Chandra Levy aux éditions 10-18. Formidable maison d'édition qui n'existe peut-être plus d'ailleurs. Je ne sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas vu sortir de livre.
Si
ça écrit toujours en 10-18.
Oui, si, ça existe toujours.
Et voilà pour Hélène Coutard qui. Mais il y a des bonnes critiques hein, quand même.
Oui, il y a un passage super roman. Intéressant sur justement la lisibilité de la société par rapport à un des attentats où celle d'avant, apparemment, qui s'est fait exploser avec la ceinture explosive, s'appelait Samira ou Samia, enfin je ne sais que, mais avait un prénom à consonance maghrébine. Et du coup, les médias, tout le monde pense que c'est un attentat islamiste. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout de...
Ça fausse complètement leur
combat, en fait. Voilà, c'était pour la petite anecdote aussi.
Merci Elodie. Allez Valérie, alors je voulais te faire parler d'une bande dessinée Libre d'obéir de Philippe Girard, adaptée du livre de l'historien Joan Chapoutot.
Ah, okay. J'ai pas écouté parce j'ai bien discuté avec Elodie. Mais je pense que tu parles de Libre d'obéir. Du coup, je vais parler de la BD parce que j'ai
exactement.
Pas le livre avec moi, c'est ça ?
Non, mais c'est la BD. C'était la BD de Philippe Girard, adaptée du livre de l'historien Joan Chapoutot. Allez, mais je vois que tu n'es pas prête.
Si, pour une fois, j'ai pris des notes.
Alors, vas-y.
Ouais, je les ai prises sur mon téléphone, mais j'ai plus de batterie. Alors, pourquoi la BD de Libre d'obéir ? Tout simplement parce que le livre est super, mais un peu dense et un peu... un peu complexe à comprendre. Moi-même, il y a des phrases que j'ai du mal à lire. Donc, je me suis dit qu'avec les images, ça passerait mieux. C'est une histoire dans l'histoire. Donc, on a le livre, l'essai de Joan Chapoutot sur Libre d'obéir. Et le sous-titre, c'est le management du nazisme à nos jours. Et c'est comment est-ce que les méthodes de management, de politisation nazie se sont tout doucement, tout insidieusement installées dans l'économie, dans le monde, même encore actuel. Et là où c'est intéressant, donc, c'est qu'on suit l'histoire d'une jeune, d'une jeune... Je ne sais rien que je mette des notes, à chaque fois je ne lis pas en fait. C'est, ensuite, dès le départ, l'histoire... Déjà, dès le départ de la BD, on a un glossaire qui nous explique tous les termes en allemand qui sont tirés du régime nazi et les personnages clés, je mets des guillemets à mes clés, du monde nazi, de la gouvernance nazie qui ont inspiré tout ça. Donc on suit l'histoire d'une jeune femme qui prend un nouvel emploi dans une société qui a l'air somme toute hyper idyllique parce que le patron lui dit voilà, nous on est une entreprise, tout le monde prend les décisions, c'est pas quelque chose qui est pyramidal, les salariés sont considérés comme des associés, mais du coup il faut quand même faire preuve de grande souplesse pour que ça fonctionne, parce que tu comprends, on n'a pas beaucoup de moyens mais on est en pleine extension. Et cette personne, alors elle a peut-être un nom dans la BD, je l'ai oublié, elle ressort et elle ressent comme un malaise en fait par rapport à cet entretien où ça pourrait être super, une entreprise où on est, où on a la parole en fait. Et elle en parle à sa copine qui elle sort d'un gros burn-out justement parce qu'elle a vécu dans une société, enfin elle a travaillé dans une société comme ça où en fait on lui faisait croire, on lui faisait pressentir qu'elle était libre, mais en fait pas du tout. Il y avait le patron qui donnait un rythme et derrière on n'était pas mieux payé parce qu'on travaillait mieux, mais en fait on était sous-payé avec des obligations à travailler davantage, à être plus souple, alors que ben, les crèches elles sont pas ouvertes 24 heures sur 24. À un moment donné, c'est ce qui est dit dans le livre. Et petit à petit, finalement, en pensant qu'on a des libertés, on les perd. Et tout ça, en fait, c'est beaucoup plus détaillé dans la BD, mais c'est vraiment, on se rend compte que par moment, on applique ou on se voit appliquer selon la position qu'on peut avoir dans la société du travail. Et on se rend compte que effectivement, le management a beaucoup repris les codes du nazisme. Alors ça, dit comme ça, ça paraît pas grave, mais quand on se plonge dedans...
Ça paraît un peu dérangeant quand même,
c'est
non ?
C'est très, très dérangeant. Ouais. Ça met mal à... Oui, mais sur le moment, tu te dis... Bah, je suis libre dans mon entreprise de donner mon point de vue ou autre, mais en fait, non, c'est surtout libre de travailler davantage et d'être au service d'eux, d'aller contre l'État aussi, hein, puisque c'était ça les prémices avant Adolf Hitler, avant qu'il fasse son insurrection et qu'il soit envoyé en prison. C'était contre l'État aussi, contre l'État qui demande trop de papiers, contre l'État qui entre guillemets, toujours pareil, oppresse parce que prend des charges. Voilà, et donc c'est ce côté-là en fait qui est mis en exergue par Chapoutot dans son livre. Donc le livre est excellent, Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours.
Tu l'as lu, ouais, le livre de Chapoutot?
Honnêtement, celui-là, j'ai pas réussi.
D'accord. Oui, ça doit être compliqué.
Alors, il a écrit aussi Les Irresponsables, comment Hitler a été porté au pouvoir, qui, à mes yeux, mais ce n'est jamais que mes yeux, était plus accessible. Là, on est quand même plus dans de la sociologie et de l'économie. Ça, on parle de néo, de carbofascisme, de techno, féodalisme. Voilà, moi,
c'est compliqué.
Ouais, c'est intéressant.
C'est un professeur à la Sorbonne, hein, historien, oui. Professeur à la Sorbonne. Oui. Voilà, c'est pas n'importe qui, brillant, oui. Ouais.
Après, il a fait aussi des petits tracts chez Gallimard ou autres, hein, qui sont plus accessibles. Pour le grand public.
Alors ça met en avant Reinhard Hahn. T'as vu, je suis aussi bilingue, je suis trilingue en fait du coup. Un ancien juriste du Troisième Reich a influencé la pensée managériale en prenant l'autonomie sous contrôle. Les dessins, tu nous les décris
c'est
comment?
C'est coloré.
C'est coloré, voilà, ouais, c'est pas du noir et blanc.
Alors forcément, quand il parle de tout ce qui vient du nazisme ou autre, on a la police gothica. Mmh. Enfin, voilà. Donc on s'évite quand on bascule d'une période à une autre. Mais il y a ce côté un peu dérangeant. Il arrive bien à le dessinateur, là, Philippe Girard. Il arrive vraiment à nous transmettre ce côté à la fois fiction, mais à la fois gare à vous, en fait, parce que c'est encore sous couvert de choses très très légitimes. En fait, il se passe des choses illégitimes.
Ok, c'est à partir de 16 ans, hein, ce roman aussi.
Oui, de toute façon, je pense qu'en dessous, on n'a pas encore la connaissance de ce qui s'est passé avant.
Oui, oui, bien sûr, et si c'est compliqué, oui, parce que vraiment, si c'est traduit en langage BD, ça...
Oui, parce qu'on regarde le glossaire avec tous les termes, c'est vraiment dense.
Pour info, juste, Philippe Girard, il est québécois. c'est un auteur québécois né en 71, diplômé en communication graphique, ce qui tombe bien vu qu'il fait des dessins. Valérie, mis à part les livres que tu devais présenter, je vois que tu en as pris d'autres, est-ce que tu vas enchaîner par un second, parce que avant de donner la parole à Marlène a un lien avec la pause musicale. Donc,
Un tout court alors que, auquel j'ai pensé, alors je ne vais pas vous mentir, j'y ai pensé aujourd'hui parce que je trouvais que mes livres n'étaient pas assez révoltés, puisque là j'avais le management du nazisme, après je vous parlerai de révolution iranienne, après l'insurrection en Irlande.
Quand même.
Oui, un petit peu quand même. Et là j'ai repensé à un spectacle de Marine Bachelot Nguyen. Qui, elle, donc, a fait un triptyque au théâtre. Donc, c'est pas une pièce de théâtre, puisque là, je l'ai en livre. Et sur un de ses tableaux, c'est le « Nos corps empoisonnés », tiré d'une histoire vraie. Donc, l'histoire d'une dame donc, qui raconte, en 2021, elle va assister à un procès. C'est elle qui a porté plainte. Elle faisait partie des boat people et elle faisait partie surtout des personnes qui avaient été intoxiquées par l'agent orange qui avait été jeté sur les champs, sur les campagnes donc vietnamiennes. Et l'histoire commence donc par un premier chapitre où cette dame arrive dignement mais très très malade avec des cancers, avec tout un tas de problèmes de santé à 79 ans au tribunal face à tout un tas de grosses sociétés, Monsanto, Dow Chemical, Hercule, Arco Chemical. Et,
pourcentage de réussite 12%.
Ouais, c'est David contre Goliath. Mais elle a été digne, elle était là, elle le faisait pour ses enfants, ses petits-enfants. Bien sûr. Puis aussi, et après, l'histoire commence au tribunal, quand elle arrive, où elle dit, mais en fait, ils m'ont proposé des compensations financières. Forcément, ils ont essayé de l'acheter, mais elle a dit, mais moi, vous savez, j'ai mes 800 euros de retraite par mois, j'ai pas besoin de plus, en fait. Donc, ils n'ont pas réussi à l'acheter. Et là, elle repart à la naissance. Elle repart du ventre de sa mère, même.
Alors, c'est elle qui a écrit cette pièce de théâtre, ce livre. Ah oui, c'est elle. Ouais, c'est pas Marine, quelqu'un c'est, sur sa pièce.
C'est
sa
Marine Bachelot Nguyen, donc, qui a écrit sur cette personne.
Qui a écrit sur cette personne. C'est pas Marine Bachelot Nguyen, cette personne.
Elle est autrice. Elle met en scène du cinéma. Okay. Et souvent, ces pièces. Moi, j'avais vu le premier triptyque, je ne sais plus le nom, je l'avais noté.
Et c'est une histoire vraie alors. Hein,
oui, complètement.
Cette personne a réellement existé.
C'est de la non-fiction. Là, on est vraiment sur. C'est de la non-fiction justement. Je cherche son nom, Tranto Nga, mais peut-être je le prononce mal. Et c'est une dame qui, en fait, a passé sa vie. Elle est née à Saïgon, à côté de Saïgon. Après, elle a été envoyée à 6 ans à Hanoï parce que sa mère était déjà une rebelle, en fait. Elle faisait déjà partie de la guérilla. Elle faisait semblant, sous couvert d'avoir une boulangerie, de faire passer des messages. Elle cachait dans les doudous de sa fille des messages pour faire passer aux autres parents de l'école. Enfin, il y a eu quelque chose de fort. Sa fille, à l'âge de 13 ans, donc notre protagoniste, elle a été renvoyée donc à Hanoï, qu'elle ne connaissait pas du tout. Sauf qu'arrivée à Hanoï, elle avait 13 ans, elle devait aller rejoindre quelqu'un. Mais elle n'avait pas l'adresse, en fait. Et elle a passé 8 jours toute seule dans la ville à essayer de retrouver. Donc, et c'est tout ça qui racontait cette force de rébellion, de caractère, d'actes de résistance qu'elle raconte dans son essai. Et c'est absolument passionnant.
Ouais, génial.
En termes de rébellion.
Oui, c'est pas mal. Elle gagne le.
Il faut le lire.
Allez, tu peux nous dire. Que... On veut savoir maintenant. On peut le dire. De toute façon, ça ne change rien à la lecture de la pièce.
Bah, si.
Ah ben si, un peu. Bah, si. Bon, on se le dit, on en parlera à la pause alors. Tant pis pour vous, vous avez qu'à être là, sur place. Merci. Allez, on passe à Marlène. Marlène, avec un univers fantasy maintenant. Le cercle de ronces de Camille Ancel. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais bien aimé ce livre.
Ah ouais, c'est chouette.
Ah mais c'est bien.
C'est bien parce que du coup, en plus, je vais pouvoir rebondir sur tout ce que vous avez dit. Puisque du coup, donc complètement fantastique. On est sur une jeune Nali qui se découvre sorcière. C'est une ado au début du livre. Sa maman est morte quand elle était vraiment toute petite. Pas tout à fait à la naissance, mais quasi. Je vous expliquerai après, mais du coup, son père décède très peu de temps après, enfin voilà, et elle se retrouve toute seule dans les rues d'une ville à devoir se débrouiller, puisqu'elle est mise à la porte, puisque voilà. En plus, elle fait partie, donc c'est une espèce de caste où elle fait partie des plus, voilà, des plus bas de ceux qui sont
indigents,
voilà, de ceux qui ne faut pas toucher, voilà, tout ça. Donc, et en fait, elle découvre qu'elle a un pouvoir de télépathie. Et bon, et d'autres pouvoirs, mais en tout cas celui-là, qui est de plus en plus grand, de plus en plus important. Sauf qu'en fait, elle vit dans une société où donc il y a un grand empire qui dirige le monde, qui est aidé par un magistère. C'est bien, c'est des mots vraiment de fantasy. On est complètement dans le monde. Et là, pour le coup, c'est l'inverse de ton livre, puisque en fait, il n'y a que les hommes qui ont le droit de pratiquer la magie. Et donc, les femmes sont tuées, puisque elles sont appelées des sorcières, alors que nous, les hommes, nous sommes des mages. Et nous avons le droit de diriger ce monde.
En fait, c'est très réaliste.
Oui,
j'allais dire, c'est très d'actualité.
Voilà. Donc, du coup, nous sommes dans cet univers-là. Et bien sûr, Lali, elle va vouloir se révolter à un moment donné. Donc déjà, elle a toutes les galères possibles et imaginables, vous voyez, comme de fantasy classique, toutes les épreuves à être seule, à devoir se débrouiller, etc., etc. Elle va quand même, au bout d'un moment, rencontrer des personnes qui vont plus ou moins orienter son parcours encore plus vers la révolte et la rébellion. Donc après, elle aura trois amis, Zao, Lucas et Elena, et ils vont décider de créer un cercle qui s'appellera le Cercle des Ronces, d'où le titre, et qui va vouloir libérer toutes ces femmes, et qui va vouloir construire un monde sur d'autres bases. Et elle va déployer de plus en plus son pouvoir de télépathe pour arriver à ses fins. Donc voilà. Vraiment un roman de fantasy ado, voilà. Un premier roman, si j'ai bien compris, avec une écriture vraiment hyper fluide et hyper prenante. Elle nous accroche dès le début parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle nous parle. Et vous, enfin vraiment, elle nous parle quand elle écrit. L'autrice.
Alors, c'est un auteur. C'est un Camille, monsieur.
Ah bon, pour moi, c'était une nana. Donc,
Voilà. Mais moi
comme
aussi,
quoi, sinon, ça aurait pas été les hommes qui diraient que c'était
comme
Camille
quoi. Fille. Ah, mais c'est marrant. Mais ouais, mais moi, je pensais que c'était une nana
tout,
pour la rébellion. Ça change tout. Mon point de vue est pas du tout le même, du
alors,
coup. Bon, c'est pas grave.
On verra au montage.
On prend la chronique.
Mais voilà. Ceci dit, non, mais ceci dit, ça change pas. Le propos est toujours à l'intérieur le même. Mais, du coup, je suis quand même surprise. Ok, je m'étais mis dans la tête que c'était une nana, mais je sais pas pourquoi. Bon. Je sais plus ce que j'étais en train de dire,
t'étais
du coup, mais c'est pas grave.
C'est pour les jeunes
donc,
à partir de 14
voilà,
ans.
Voilà, tout un univers de fantasy. Donc bon, voilà, tous les bons ingrédients. Il est bien teinté de féminisme, du coup, puisque défendons les femmes autant qu'on peut. Donc il nous accroche, etc. Alors, pour moi, cet univers-là, j'ai retrouvé deux, trois références de fantasy et de SF. C'est-à-dire que j'avais l'impression, à certains passages, d'être dans les chroniques lunaires. Donc, j'avais vraiment l'impression que ça se raccrochait, même si les chroniques, on est sur des contes à la base, mais c'était vraiment ce milieu-là. Et sur l'univers qui est décrit et toute la magie de la fantasy, vraiment au niveau des paysages, etc. Alors là, pour le coup, on est, vous voyez les îles accrochées dans Avatar numéro 1 C'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est une île qui est au-dessus d'un monde et qui s'appelle Céleste et qui, du coup, est reliée avec des filins au bas, mais qui continue son voyage. Donc voilà, c'est un peu... et en fait, c'est vraiment... il m'a capté du coup. Il m'a capté du coup. Parce que du coup, on retrouve vraiment plein de références. Ou alors, c'est que moi qui les ai retrouvées. Mais voilà, ça donne vraiment cette impression-là d'être dans vraiment un peu plein d'univers SF et fantastique qu'on connaît déjà un peu. Et en même temps, à fond dans la magie, voilà.
À partir de 14 ans, c'est conseillé.
Ah ouais, mais même en dessous. Mon fils est plus jeune, il peut le lire
il
facile.
Il peut le lire,
ah, oui,
tant mieux.
C'est vraiment,
mais c'est récent.
Et il vient juste de sortir.
Ah. Oui, parce que son premier livre date de 2021, c'est La Cité des Larmes.
Ah, j'avais compris que c'était
d'accord.
Le premier.
Non, donc c'est
le
second.
Oui, parce que t'as dit que c'est le premier, mais La Cité des Larmes.
Bon, alors du coup, je pense que je me suis plantée d'auteur en cherchant, c'est bien.
Est-ce que tu as lu le bon livre?
Oui, le livre, oui. J'ai kiffé.
Elle nous a inventé une histoire.
C'est vraiment...
Elle a vu Avatar, elle a dit, j'ai pas eu le temps de lire.
Non, carrément pas.
J'ai balancé le 1.
Même, j'ai bien aimé, les chapitres sont très courts. C'est pour ça que même avant...
Elle a lu avec des lunettes 3D, comme Avatar.
Non, j'ai pas de lunettes en plus. Mais les chapitres sont très courts et tout, c'est pour ça que je pense qu'on peut lire bien avant ce qui est marqué. Et après, c'est sympa. Et puis, c'est voilà. Bon, comme la fantaisie, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a tout, ça se tout, tient, tout est là. Ouais,
tout est là. Alors Camille Nancel est un écrivain français de fantaisie, également musicien, auteur, compositeur. Il vit à Saint-Pierre des Échaubrognes. Est-ce que c'est en Bretagne? Saint-Pierre des Échaubrognes.
Pas à ma connaissance.
Pas à ta connaissance.
Ça semble pas très breton quand même.
Hein. Ça va être un normal. Ouais.
Alors, gagnant du concours du premier roman jeunesse 2025.
D'accord. Camille Ancel.
Avec celui-ci?
Avec c'est celui-ci. Vrai. C'est pour ça que t'es sûr qu'on parle du même.
C'est peut-être pas le même. Mais attends, et Camille Ancel, écrivain français, c'est pas possible que ça soit un autre.
Bon, Camille, si tu nous écoutes.
On va, novembre 2025, attends, donc si tu veux. Moi, je l'ai dans les mains que depuis là.
On va vérifier.
Et c'est pour ça que. Enfin, bon.
Écoute, on va vérifier parce que c'est la pause musicale, mais je pense pas m'être trompé. Et moi, j'avais comme info qu'en 2022, Camille Ancel a obtenu le grand prix du tremplin musical pour sa chanson « Ce sera toi ».
Il est fou, ce Camille Ancel.
D'où la pause musicale, parce qu'on va justement écouter voilà. Camille Ancel « Ce sera toi ». Et on vous dira après la pause si c'était bien le même auteur celui qui a écrit ça, mais je pense pas m'être trompé. Allez, on va écouter ça.
Il y avait
déjà
eu le problème avec le Renaudot, hein, faites gaffe quand même.
Ouais.
Je vivais sous un ciel noir, j'avais adopté mes cafards. Je marchais à reculons, j'ignorais encore ton nom. Ce sera toi. Je cuisais à petite flamme quand t'as ramassé mon âme. Et que ton rire contagieux m'a fait sentir amoureux. Ce sera toi. Depuis que t'as pris mon cœur de la nuit, je n'ai plus peur, je lèverai tous les défis. Tu es si jolie, ce sera toi. J'escaladerai ta montagne, c'est de la joie qui me gagne. Si la vie est éphémère, je te veux pour partenaire, ce sera toi. Heureux phénomène, vois où la vie nous mène. C'est ton cœur contre mon cœur, ton sourire fait mon bonheur éternel. Je ne connais le futur qu'au pluriel. Et lorsque je perds le nord, comme un phare, tout brille fort. Sur mes deuils et sur mes peines, où était la fille que j'aime? Ce sera toi. Je veux ta main dans la mienne, si mes idées te conviennent. Je te décrocherai la lune, ta fille comme toi, y'en a qu'une. Ce sera toi. Ma petite blonde, il n'y a pas de mot plus doux que tes lèvres contre mon cou. Ce sera toi. Tu m'as ouvert l'horizon de projets, de chansons. Toi qui as soufflé mes nuages, je te demande en mariage. Ce sera toi. Heureux phénomène, toi où la vie nous mène. C'est ton cœur contre mon cœur, ton sourire et mon bonheur éternel.
Et voilà, on a cherché, et c'était bien le même auteur qui écrit ce roman. Et donc, on est en train de se dire que La Cité des Larmes, paru en 2021, n'était peut-être pas un roman. C'est pour ça que celui-ci, La Cité des Ronces, est son premier roman. On est d'accord, Marlène ? Non, t'es pas... Mais écoute,
La Cité des Larmes, c'est Kate Moss, mais pas celle que tu crois connaître, l'autre.
La chanteuse ?
Non, l'autre, justement.
Non, mais effectivement, il a aussi écrit La Cité des Larmes.
Ah, merci.
Eh, je ferai pas le wildcard.
Mais en 2021
si tu veux, en 2021.
Je vais faire une wildcard.
La wildcard, c'est toi qui décides. Hein. Tu cries, tu
je décide.
Allez,
parce que comme elle n'a aucun rapport avec le schmilblick.
Alors, il faut que tu la sortes, la wildcard, pour pouvoir la jouer.
Ta-ta-ta-ta, wildcard
C'est la wildcard. Et non, on a perdu la vraie wildcard. Je pense que c'est Thomas qui l'a volée.
Je pense que c'est Thomas.
C'est tout à fait probable.
On aurait dû lui annuler ses vacances.
Il faudrait les voir dans sa chambre s'il n'y a pas un poster wildcard. Allez, dis-nous.
Alors, je voudrais vous présenter ce livre qui s'appelle Cucu.
Ah, c'est
déjà,
joli,
le titre est très mignon. Il est paru le 4 février. Et donc, il est écrit par Camille Emmanuel. Donc, on ne sait pas trop qui c'est, du coup. C'est scénariste, journaliste.
C'est un homme ou une femme?
C'est une femme.
Ouais, parce que maintenant... Hein,
spécialisé par les questions de sexualité et de genre. Et donc, du coup, ça va plaire à Valérie. Si, ça va te plaire, Valérie.
Mais je suis tout ouïe.
Ce livre va te plaire. Alors, ça parle de révolte, quand même un peu.
Oui, donc c'est pas une wild card que t'as.
C'est une wild card dans la chance. Enfin, faut aller gratter un petit peu loin.
Tu lui as mis la pression un peu, hein, quand même, pour que ça colle au thème. Hein, je veux pas dire, mais.
Donc on suit l'histoire de Marie. Marie qui écrit des romances érotiques et qui, alors c'est un job alimentaire parce qu'en vrai elle est prof de français vacataire. Et donc.
En quoi ça l'empêcherait d'écrire des.
Alors ça ne l'empêche pas, mais du coup la nuit elle écrit des romans érotiques.
Okay.
Et son éditrice un jour va lui demander de passer à la dark romance puisque ça fonctionne et c'est ça qui fait vendre. Donc il va falloir qu'elle s'y mette. Et donc Marie, qui a quand même des convictions, va mettre un veto et va s'insurger contre ce système. Culturelle et éditoriale qui lui impose d'écrire d'écrire des violences sexistes, d'écrire des humiliations. Donc elle dit non. Et alors c'est très drôle, hein, c'est un livre qui est écrit avec beaucoup d'humour et qui est assez truculent. Et donc elle décide de faire mourir son personnage principal qui s'appelle James Cooper, hein, le mâle alpha, hein, dans sa grandeur,
etc. Il faisait du hockey, non, ou pas ?
Non, mais il est chef de, il est multimillionnaire, voilà.
C'est classe. Je vais peut-être changer de nom, moi. Ouais, vous pouvez m'appeler James Cooper,
s'il vous plaît. Carrément, il voyage en jet privé, tout ça. Voilà. Donc, elle décide de le faire mourir, en plus, un peu bêtement, étouffé avec un petit four. Enfin, c'est assez rigolo. Et là, le roman bascule dans un roman un peu fantastique. C'est-à-dire que le lendemain, elle se réveille. Et le mâle alpha se retrouve affalé sur son canapé.
James Cooper.
Le James Cooper. Mmh. Donc le gars, il croit qu'il a une vraie vie, une vraie existence. Hein, donc il n'a pas compris qu'il n'avait pas de vraie carte bleue, ni de papier, ni de machin. Mmh. Donc on se retrouve avec des scènes un peu rocambolesques. Et c'est assez drôle. Et elle va être tiraillée entre ses convictions féministes et aussi, bah, du coup, son attirance. Puisque elle l'a écrit, elle a pensé le gars avec ses fantasmes. Donc il correspond complètement à son idéal masculin. Et donc, elle va le... Alors, elle va pas l'émasculer, mais elle va quand même le déconstruire un petit peu. C'est-à-dire qu'elle va essayer de lui inculquer des valeurs
lire de notre Mona société. Chollet, tout ça.
Alors, on n'en est pas sur de la lecture de Mona Chollet, mais au moins sur le consentement, sur... voilà. Et donc, du coup, c'est assez sympa, parce qu'on va suivre aussi l'éditrice qui essaye, du coup, elle, d'avoir un roman à la fin qui tient la route en termes de dark romance.
Elle est au courant, l'éditrice, de ce
L'éditrice n'est pas au courant. Sa sœur la prend pour une folle. Tout le monde, voilà. Donc, c'est assez rigolo. Et on arrive bien à voir comment sont tirées, dans le monde de l'édition, toutes les petites ficelles pour forcer les auteurs, enfin, pas les forcer, mais en tout cas, les conduire à écrire ce que les gens ont envie de lire.
Et non pas ce qu'ils ont envie d'écrire.
Exactement. Et donc, du coup... voilà, c'est un livre qui serait très intéressant, alors je dis pas lu par des adolescentes, mais enfin, en tout cas, toutes les fans de New Romance seraient très avisées de lire ce livre. Parce que franchement, c'est très, très... Et c'est à la fois drôle, ça, c'est pas dans le jugement, mais ça permet quand même d'avoir un regard extérieur sur le sujet.
Et on salue Clarisse qui attend un petit Elliot. Oui, voilà, je l'ai croisé.
Ah, bah donc voilà, donc voilà. Hommage à Clarisse, je lui conseille ce livre.
Et alors, est-ce que James Cooper, il est toujours aussi sexy et mâle alpha à ses yeux quand elle essaye de le déconstruire?
Alors, elle le trouve complètement con, du coup. Ah. Mais ils vont quand même avoir... je vous dévoile au moins jusqu'à la moitié du livre, ils vont avoir une petite liaison.
À la voir sur place.
Voilà, évidemment, elle va pas... évidemment qu'il ne va pas correspondre du tout à ses attentes et qu'elle va se rapprocher de celui du gars normal, en fait, du gars qui est respectueux, le gars qui... Voilà, le gars qu'on attend toutes.
Et oui.
Enfin, en tout cas, n'attendez plus le James Cooper. Pardon.
Ouais. Voilà. On n'a pas parlé mélange de fantastique nulle part.
C'est Verso. Ouais. Voilà.
D'accord. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Merci, Elodie. Pauline, deuxième livre à nous présenter ce soir. Chorba, l'appel de la révolte de Gaspard Flamand. Si tu as envie de le présenter ou pas.
Oh oui, je veux bien le présenter, celui-là.
On va à Vénissieux, là. On va changer un peu. C'est un jeune de Vénissieux qui traîne au pied des tours avec deux potes depuis qu'il a abandonné le lycée.
Voilà.
On est dans la rébellion des jeunes,
encore une fois. On est dans le cliché de l'adolescent qui traîne devant le supermarché en fumant des joints avec son jogging. Alors, c'est pas
pas précisé que c'est à Lacoste, mais on l'imagine très bien.
Il y a une sacoche Vuitton.
Pas de marque.
Sûrement. Ou Vuitton, peut-être. Mais bref.
Sergio Tacchini.
Voilà, il est avec ses potes en train de traîner devant le supermarché. Il fait rien de ses journées. Jusqu'à l'arrivée un peu bizarre. J'avoue que j'étais pas super convaincue par ce qui perturbe tout l'équilibre, équilibre entre guillemets, de ce bouquin, l'arrivée de Léo, une espèce de hippie qui va rentrer dans le magasin et qui va piquer des trucs sans trop se faire voir. Et puis les vigiles vont quand même le choper, mais il s'en sort brillamment. Et d'un coup, on sait pas trop pourquoi, et c'est ce qui m'a gênée dans cette histoire, il va décider de prendre nos trois jeunes sous son aile et de leur faire voir ce qu'il y a autour de Lyon. Qu'il y a des montagnes, il y a des forêts, qu'il existe de la nature. Et ils vont petit à petit un peu s'émerveiller du monde qui les entoure. Et il va créer chez eux une envie de voir autre chose et de changer le monde. Ah. Voilà.
C'est Pascal le grand frère un peu là.
C'est un peu Pascal.
En Sarouel.
Voilà. Oui, c'est tout à fait ça.
Que j'essaye de m'imaginer tout à l'heure ton personnage.
Tu l'as lu ou quoi?
Non, mais j'imagine que c'est sa vieille Clio en disant allez, venez les gars, je vous emmène en balade.
Voilà.
Moi j'avais une Clio, j'avais pas de Sarouel.
T'avais des dreadlocks?
Non plus. Ouais, j'étais mal. Oui.
T'étais pas blanche.
Il a passé à deux cheveux pour avoir des dreadlocks.
Ouais, j'étais mal coiffé quand même.
Oui, mais toi, t'aurais jamais volé dans un magasin.
Non, jamais. Voilà. Ça n'est jamais arrivé.
Mais voilà, son but à Léo, c'est pas les faire se révolter, mais c'est d'abord de les faire se rendre compte que être riche, ça n'a pas de sens, qu'être pauvre, ça n'a pas de sens, que finalement, on est riche de ce qui nous entoure. Enfin, c'est. Je reproche certaines choses à ce livre qui sont en fait énormément de clichés, un côté hyper caricatural, mais on ne peut pas s'empêcher d'être touché. Et pour avoir testé ce bouquin sur des ados, donc le public à qui ce livre s'adresse, parce que moi, j'étais pas ultra convaincue que du jour au lendemain, on transforme des jeunes de banlieue en grands militants pour l'immigration. Enfin, là, c'est ça à terme qui se passe. Et en fait, sur l'aspect lecture, c'est vachement prenant pour des ados. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, oui, je veux bien quand même en parler, parce que si moi, en tant qu'adulte, je me suis dit, ça a été un peu rapide, on est un peu dans le tout cliché, tout cliché à fond. Mais malgré tout, sur les ados, ça marche. Et c'est une histoire, je pense, qui peut vachement les marquer.
Ils y croient, parce qu'ils pensent que c'est possible.
Et ouais, et finalement, ce qu'il y a derrière, le message est assez joli, assez touchant et assez positif, c'est qu'il faut s'ouvrir aux autres, c'est qu'il faut penser aux autres, il faut pas rester fixé sur soi-même, on n'est pas riche de sa PlayStation, on n'est pas riche de sa moto, enfin, les messages sont malgré tout très positifs, très simples, mais très positifs et très, très touchants, finalement.
Grâce à cette révolte ou... Parce que c'est la révolte qui fait...
La révolte, elle est très discrète, parce que la révolte, elle consiste à, déjà, au départ, à aller voir la nature, elle consiste à lire, elle consiste à s'intéresser aux autres. Puis ça monte quand même un petit peu, puisque ça va finir par squatter une maison avec des migrants à qui on a enlevé leur bidonville en plein milieu de Lyon, et qui se retrouvent avec rien pour se loger, et donc ils décident de squatter une villa bourgeoise de...
Non utilisée,
et donc un des fameux trois jeunes va vraiment se prendre plus au jeu que les autres, et c'est Shorba, c'est le héros de son vrai nom, Bachir. Donc il y a ce côté touchant où on aimerait que ça se passe comme ça, en fait. On aimerait pouvoir créer ce déclic chez les jeunes, de leur dire, ouvre-toi, regarde les autres, regarde ce qui t'entoure et décroche de ton supermarché avec ton joint où tu fais rien, où tes journées, elles t'ennuient toi-même, mais tu sais même pas comment t'en sortir parce que t'es plombé dedans. Et donc, voilà, il y a un message assez touchant et voilà.
Alors, c'est marrant quand tu racontes, parce qu'il est passionné du réalisateur Ken Loach, le réalisateur anglais qui réalise depuis toujours des films sur la lutte des classes, qui met en avant ses classes populaires. Alors, donc je retrouve
complètement
ce que tu me dis. Voilà, il est fan de Roberto Saviano aussi, mais je ne connais pas cet écrivain.
Oui, si, c'est celui qui a écrit sur le juge en Italie. Saviano, il vit sous d'ailleurs sous protection policière.
Oui, d'accord, ça, je vois. Génial.
Il a écrit sur le narcotrafic beaucoup et je suis en train de chercher le nom de. C'est parce que quand je réfléchis, je suis obligée de baisser la tête pour faire connecter les deux neurones.
Le micro ne baisse pas la tête aussi.
Non, il a écrit le juge Falcon. Voilà. C'est ça. Ouais.
Gaspard Flamand a grandi à Lyon, vécu à Madrid, Paris, Marseille avant de s'installer à Montpellier. Il habite pas très loin. Un roman à partir de 13 ans. Oui. C'est son premier roman qui est paru en 2018.
Ah ouais. Touchant.
Touchant. Merci, ça donne envie. Merci Pauline. Marlène, La Révolte d'Edouarda Lima. Edouarda.
Pour les petits, c'est bien.
Pour les petits, c'est bien. On n'avait pas d'album jeunesse. Chouette. Un album jeunesse poétique et politique, paraît-il.
Et écologique surtout.
Et écologique. Et écologique, bien sûr.
Écologique, surtout.
Et oui, il parle...
Il parle de... c'est la révolte... Alors, c'est la révolte dans la nature. Plus personne ne parle. Ça commence par, par un oiseau. Et ensuite, les chats se taisent, les chiens se taisent, les poules se taisent, les enfants se taisent.
Élodie se taise pas.
Les loups se taisent. Et Élodie, qui me l'a mis dans les mains, se tait.
Non, elle balance des trucs. Elle râle que j'ai pas de bol. Je vais lancer une cagnotte pour qu'on achète un bol pour cette émission, pour mettre des chips.
Si quelqu'un a un saladier pour un don à 48
FM. On est trop mal équipés à 48
FM. Faut qu'on refasse les émissions à la livrerie. C'est pas du tout ça.
Bientôt.
Bah du coup je vais vu que c'est un album je spoil la fin sinon ça sert à rien.
Allez,
voilà. Et en fait donc le monde se tait. Les dessins, alors je vais commencer par ça. Les dessins sont très vifs, très colorés, d'accord.
On dirait qu'il faut des lunettes pour pouvoir les voir en 3D.
On a un côté 3D,
Très coloré,
mais seulement 3 ou 4 couleurs maximum, hein.
Voilà.
Toujours les 3 mêmes couleurs.
Voilà, les 4 bleu, vert, rouge, blanc, voilà. Et en fait, ça fait du bien, le monde du silence, non? Un peu comme pendant le Covid. Oh, c'était bien.
Et on au final, les oiseaux, ouais.
Tout ça pour dire que ça commence par un oiseau qui peut chez roux.
Ouais, qui crache un bouchon en plastique
de bouteille.
Généralement, il meurt avec les bouchons en plastique.
Voilà. Donc là, il le crache sur ce bouchon. Il y a bien marqué que c'était du soda.
D'accord. Ah, c'était pas
rouge sans dire. Il y a marqué soda.
C'était pas sur la terrasse d'Élodie.
On reconnaît la typo. Hein.
Voilà. Et du coup, oui, on reconnaît la typo, c'est clair. Et du coup, voilà, là, dernière page, vive la pollution humaine.
Ok, ça finit pas bien.
C'est pas des humains, c'est des cargos, des avions, des autoroutes.
Donc c'est la révolte de la nature, parce que l'humain, comme d'habitude...
Enfin, c'est la révolte de la nature qui perd, quoi, a priori.
Oui, mais c'est... Voilà. En fait, c'est une fausse révolte, puisqu'on a l'impression qu'ils se révoltent en se taisant par raison. Mais en fait, pas du tout. C'est qu'ils n'ont pas eu le choix, en fait, de se taire.
D'accord.
Voilà. Donc, la nature s'est tue. On a vraiment l'impression qu'elle se révolte, et en fait, pas du tout. C'est à cause de nos bêtises humaines que tout s'est tue.
Très peu de textes.
Voilà, très peu de textes. Mais c'est vraiment un album, donc c'est vraiment pour les tout-pichous. Allez, il y a une phrase par double page.
Donc, oui, quel âge
Il est joli, ouais.
Un an, 8 ans. Un an, 7 ans, 6 ans.
Si tu le donnes à des si tu le lis à des 1-3 ans
un petit peu la dimension écologique du texte.
J'explique à ma fille de 4 ans les histoires,
mais ils verront bien pourquoi il s'est tué quand même.
Après chacun son degré de lecture,
mais voilà. Mais après il n'y aura pas le côté voilà.
Je fais un parallèle parce que j'aurais pas été honnête si je parlais pas de Rousse, parce que ça c'est la version enfant. Oui. Il existe la version adulte de La Révolte, qui est pas le même auteur, qui est pas le même titre,
qui
n'a rien à voir. Non, mais c'est
qui n'a pas le même format, qui n'est pas pour les enfants.
Moi j'ai vu un film qui s'appelle Révolte aussi, qui a aucun rapport.
Non, mais il est tout un lien, si, parce que l'album, si t'as pas d'enfant, tu n'as aucun intérêt à le lire. Par contre, si tu as envie de lire un livre qui parle des animaux qui vont s'offusquer par ça, tu peux lire Rousse, parce qu'on parle de révolte quand même. Je suis désolée,
et d'animaux, il y a un lien.
Oui, il y a un lien. Donc c'est les animaux qui, eux, par contre, ont la parole. Mais il y a le Rousse, c'est une fable poético-écologique. C'est écrit par Denis Infante. Il raconte l'histoire de Rousse qui sort de sa forêt et se rend compte en fait qu'il n'y a plus d'humains. Les animaux qui vivent dans l'eau sont en train de mourir parce qu'il y a l'évaporation qui se fait trop importante. Et elle essaye petit à petit de rassembler un peu tous ces animaux, toute la nature, pour essayer de ne pas faire comme ces pauvres humains qui n'ont rien écouté aux signes qui leur étaient annoncés. Mmh. Et elle essaye en fait de protéger et de faire en sorte que tout le monde puisse... tous les gens qui restent autour d'elle puissent continuer à exister. Et c'est un roman qui est beau, qui est fort, qui est fait de révolte et qui est là pour faire prendre conscience à ceux qui lisent les livres, donc au Capitalocène et à l'Anthropocène, que tout ce qu'il fait, c'est fort en conséquence. Donc c'est si on n'a pas d'enfant comme prétexte pour lire La Révolte, on peut lire Rousse, Les habitants de l'univers, écrit par Denis Infanta, qui est absolument génial.
Et merci. T'as bien fait. Merci Valérie, oui. Tu as bien fait. Élodie, dans le désordre de Marion Brunet, ils sont sept jeunes qui se rencontrent en manif.
C'est ça, exactement. Ça fait un peu écho à... c'est un roman jeunesse, pareil. Et un roman jeunesse que je ne conseillerais pas pareil au moins de 15 ans.
Livre à partir de 14 ans.
14, ouais, voilà. Qui est un peu, qui a une fin un peu tragique et un peu difficile. Donc pareil, qui mériterait selon moi une médiation à la fin de l'ouvrage. Voilà. Donc effectivement, on est tout le... Les trois quarts du livre se déroulent plutôt bien. On a sept jeunes adultes. C'est des jeunes adultes, on n'a pas trop leur âge, mais on voit qu'ils sont, quand même déjà un peu indépendants, qui se rencontrent dans la rue, dans la colère d'une manifestation. Ils décident de vivre ensemble. Et là, ce vivre ensemble se fait en marge de la société, donc de squat en squat. Et donc on vit avec eux dans la débrouille, l'autogestion, et avec une tentative de liberté totale, mais beaucoup de désillusions. Il n'y a pas vraiment de projet politique structuré. Ils sont en colère, mais on n'a pas de... On ne sait pas trop pourquoi.
Contre tout et rien, quoi.
Voilà, c'est ça. Ils sont en colère contre tout et rien. On suit au milieu de ce groupe, leurs histoires d'amour, leurs contradictions. C'est l'histoire principale entre Jeanne et Basile, qui est une histoire d'amour de ces deux qui se rencontrent dans ce squat, qui vont vivre une histoire d'amour du coup très éphémère pour le coup. On a quand même des problématiques sociales qui sont assez fortes, qui sont abordées dans ce livre, qui sont la précarité, la difficulté de trouver un travail, beaucoup de passages sur les violences policières, les absurdités administratives, le temps qu'on peut passer, à partir du moment où on est rentré dans le lieu, on ne peut pas être viré avant temps, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, c'est un livre qui capte une jeunesse en colère, mais sans la juger et sans l'idéaliser. Et ça, c'est super bien, parce que vraiment, l'écriture, elle est émotionnelle, elle est intense, mais elle n'est pas dans le jugement. Et donc, du coup, on ne se dit pas c'est super chouette de squatter des endroits où c'est pas bien ce qu'ils font. Parce qu'il y a tout un passage où ils volent dans les magasins pour se nourrir, forcément. Donc voilà, il y a un parti pris qui, au départ, est un peu empathique et qui, finalement, à la fin, qui nous permet de prendre du recul. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Alors, il écrit très simplement, on est sur un roman jeunesse, mais il est rythmé, alors qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'intrigue. En fait, on n'attend rien. On les suit, en fait, on les regarde vivre.
Oui, ils n'ont pas envie de couper des têtes. Ils ont
c'est
pas,
ça, on les regarde vivre, en fait. Okay. Ça déroule, okay. Donc il ne se passe rien. On n'a pas, ils n'ont pas un objectif à la fin, si ce n'est de ne pas se faire virer du squat. Mais il n'y a pas d'objectif. Si ce n'est que de vivre de manif en manif et de se laisser porter par leur révolte sans trop savoir ce qu'ils font là, quoi.
Alors Marion Brunet, elle a eu plusieurs prix, lauréate du Grand Prix de littérature policière en 2018 pour L'été circulaire, de la Pépite d'or 2019 pour 100 fois ni loi. Et je vois qu'en 2025, elle a reçu le prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren, l'une des plus hautes distinctions mondiales littérature jeunesse. Mais je n'ai pas écrit pour quel livre.
Ce livre-là date de 2016, donc il est un peu
c'est battu. pas celui-là. Donc c'est pour un autre.
Voilà, c'est ça.
Merci Elodie. Valérie nous propose Iranienne de deuxième génération. Ça y est, on va enfin, alors qu'il reste 10 minutes d'émission, partir en Iran.
On peut
pousser
après,
un peu plus.
Après, on peut aller en Irlande aussi, si vous voulez, quand je vais.
Je vais en Irlande.
Ouais, après, c'est à Pauline. Et ben voilà, comme ça, on finit en Irlande.
C'est chouette de voyager un peu.
C'est génial.
Alors,
ouais, sauf que l'Iran, c'est pas le pays, le voyage qu'aurait fait de façon spontanée Sagar. Donc, Sagar, c'est une jeune italienne. Alors, c'est une BD. Hein. J'avoue que j'avais peur de ne pas avoir
c'est
le temps de lire.
L'autrice, en fait, c'est Sagar Kaleogpour.
Kaleogpour. Voilà. Et ben justement, comme on a écorché son nom là à la radio, Sagar, toute sa vie, elle est née à Milan, donc elle est italienne. Et toute sa vie, elle a dû se justifier d'être italienne, de parler couramment l'italien, de l'écrire correctement. Et on découvre Sagar. Donc c'est sorti, le livre est sorti, je ne sais pas quand d'ailleurs, peut-être que d'autres.
Alors, mais bien sûr, je vais te dire.
En mai 2025.
En 2024.
2024. Alors,
c'est son premier livre et il est sorti en 2024.
Dépôt légal mai 2025. Ah oui, c'est très bien italien, ouais.
Ben oui, il faut attendre qu'il passe la frontière.
Traduit l'italien, tu l'avais l'italien dans ta escarcelle de langue.
Tu sais,
Ben 10 000.
Je ne l'ai pas.
Et donc, en fait, c'est une BD qui raconte l'histoire. Donc, le titre, c'est Iranienne de deuxième génération. Donc, elle petit à petit, en fait, elle ses parents sont des... j'ai oublié le nom. Farsi, parle farsi à la maison. Et donc, à la maison, elle a cette culture assez sous-jacente iranienne, mais qui est pas non plus très très prégnante, mais elle est italienne avant tout. Et un jour, elle s'intéresse un peu à ce qui se passe. Elle voit écrit liberté en farsi, justement, et elle s'intéresse à une manif. Elle commence à y aller, et là, elle commence de plus en plus à s'intéresser au peuple iranien, aux conséquences qu'il peut y avoir quand on essaye de manifester, et notamment le summum de ce qu'il a vraiment engagé sur. Sur la révolte, c'est justement les révolutions iraniennes qui a
Femme,
pu y avoir.
Vie, liberté.
Femme, vie, liberté. Mmh. Voilà. On aurait pu parler de ce livre, mais qui est beaucoup plus connu. Donc moi, j'avais bien envie de mettre celui-ci en avant, d'autant plus que c'est sa vraie histoire. Et ça met... c'est une double révolte. Pour moi, ce livre, il y a la révolte iranienne, qu'on connaît, donc de Marjan et de toutes les femmes qui ont écrit sur le sujet. Mais il y a aussi sa révolte à elle en tant que qu'italienne, mais stigmatisée parce qu'elle a un prénom qui a consonance pas italienne, justement, et qu'elle est brune, parce qu'elle a les, enfin, elle a pas le
elle fait pas type, elle a pas le type européen
visible,
en fait.
Oui, c'est le questionnement sur l'identité, l'appartenance,
en permanence,
comme peuvent vivre tous les gens qui sont nés dans un pays, mais de parents
Et que nous, je pense, on peut pas comprendre, parce qu'on
qu'on
le vit
pas.
On peut le soutenir, on peut être empathique avec elle, mais quoi qu'il en soit, on le vit pas au quotidien. Et à un moment donné, il y a une scène qui est absolument, qui donne envie de crier. Elle va renouveler sa carte d'identité, mais comme j'allais dire, c'est pas un permis de séjour ou autre, hein, c'est vraiment une pièce d'identité qu'elle va à la mairie de c'est pas Milan, est-ce que j'ai dit qu'elle était Milan, si, pour la renouveler. Et la personne qui la reçoit au guichet se met à parler tout doucement en disant, est-ce que vous voulez que j'écrive pour vous? Et elle dit, non, enfin, en fait, ça va, je sais écrire correctement, je sais tenir mon outil scripteur entre les mains. Je plaisante, mais et en fait, c'est tout ça, et c'est pour ça que cette BD, elle est très intéressante, parce qu'on en apprend beaucoup sur l'Iran, sur les minorités iraniennes, sur l'origine du conflit, et surtout les femmes, comment elles étaient. Sa mère elle-même était immigrée iranienne pour une raison qui n'était pas la même que son père, qui lui aussi avait immigré. Ses parents se sont connus en Italie. Et sa grand-mère, on comprend un peu mieux la révolution iranienne, enfin la révolte iranienne, j'allais dire, plus que révolution, et sa révolte à elle en tant qu'italienne, mais pas reconnue. Et en même temps, si on s'intéresse un peu à la politique italienne, on comprend pourquoi est-ce qu'elle n'est pas reconnue comme italienne en étant de deuxième génération d'iranienne.
Mais oui,
donc, c'est
absolument.
Une BD absolument géniale.
Merci Valérie.
Chez Cambourakis, ça va de soi.
Voilà. Allez, on finit en Irlande, mais plutôt à Belfast, et on va revenir un peu en arrière. On va partir à l'été 2014, Pauline.
Oui, l'été 2014. Alors, je ne sais pas si tu as vérifié un peu les faits, parce qu'on part sur l'été 2014, il y a des grands feux partout dans Belfast. Alors, je ne sais pas si ça part d'un fait réel, je voulais vérifier, puis je vais un peu mal gérer mon truc.
Je regarde pendant que tu discutes.
Merci. Voilà, voilà.
Parce que je n'ai pas vérifié du tout, bien sûr.
Voilà, en fait, il y a une alors, tradition.
Alors, c'est les lanceurs de feu de Jan Carson. Parce
oui,
que,
bah, oui.
On a tendance aujourd'hui à pas donner les titres et l'auteur. Je ne sais pas ce qui se passe.
C'est le côté
là.
Mystérieux.
Ouais, ouais, c'est le côté mystérieux. Tu arrives.
Révolte.
Ouais.
Donc ouais, y a une tradition apparemment à Belfast, autour du 12 juillet, on allume des feux un peu partout dans la ville, voilà, pour célébrer
mon anniversaire.
L'anniversaire de la livrerie, de Valérie, de... voilà, et là, cette année-là, 2014, on décide d'allumer des feux avant et d'allumer des feux grands, très grands, trop grands. Et là, bah forcément, l'État, la ville, la police, enfin, est obligé d'intervenir et de limiter. Et bam, révolte.
On n'aime pas,
ben
pas être limité.
On n'aime pas être limité, donc on va faire des feux plus grands, on va faire des feux plus gros, on va faire des feux dangereux. Voilà, donc ça, c'est le fond de cette histoire. Ce livre est un petit ovni. C'est-à-dire que donc on a ce fond là, Belfast brûle. Et là, on a deux papas. Un papa qui a peur partout. Il est médecin, mais il a peur de tout. Et il vient d'avoir un bébé d'une femme dont il est persuadé que c'est une sirène, qu'il l'a envoûtée avec son chant de sirène. Et donc, il a ce bébé avec lui. Il a peur que ce bébé soit aussi une sirène.
Un siron.
Voilà. Et c'est une petite fille. Sa petite Sophie, et qu'elle envoûte tout le monde avec son chant de sirène. Et donc, il a à la fois envie de prendre soin d'elle et envie de s'en débarrasser. Donc, il est complètement perdu. C'est assez terrifiant. Il parle beaucoup. Enfin, il ne parle pas. Il réfléchit énormément sur ce qui lui fait peur, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, comment il veut prendre soin de sa fille, mais comment qu'est-ce qu'il peut... Donc, il ne parle jamais devant elle. Il embauche une nounou sourde et muette pour... c'est complètement... ce n'est pas un livre drôle. Ce n'est pas un livre farfelu. C'est un livre extrêmement sérieux. Je vais avoir du mal à le traduire.
Oui, mais la sirène, ça va... Ça...
Là, voilà, ça... Et encore, je n'ai pas fini.
Mais en même temps, un bébé... c'est les sirènes en fait. T'allumes tout plein de sirènes qui disent oh là, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire.
Bah voilà.
Il hurle.
Et lui, il se retrouve
moi,
là-dedans.
Tu vois, j'entends ça tout de suite.
Et il se retrouve à se dire mais je vais peut-être ajouter cette petite fille qui est peut-être qui va peut-être envoûter tout ce qui l'entoure. Alors que déjà que Belfast brûle et déjà que le monde est terrifiant, que le monde est dangereux. Enfin bon. C'est
Alors, il faut faire intervenir Elodie parce qu'elle est partie sur des sites de revente d'habits, là. Elle était avec son téléphone,
elle a abandonné. Est-ce que Belfast a brûlé en 2014?
Alors, toutes les références font référence, ça a l'air d'être véridique, mais tout fait référence à ce livre Lanceur de feu.
Ah,
donc, du
c'est
coup,
peut-être
c'est pas difficile à savoir.
Du
on
coup,
sait
j'arrive pas.
Pas
à trancher.
On va appeler un ami de Belfast.
Voilà, on demandera à nos auditeurs de nous dire.
L'autre papa qu'on suit a plusieurs enfants, dont un fils qui l'a toujours inquiété, depuis tout petit, parce qu'il est malsain. Clairement, son fils est malsain, mais en tant que papa, en tant que maman avec sa femme, ils n'ont jamais vraiment voulu accepter le fait qu'il soit malsain, qu'il ait des comportements limite dangereux et avec un côté pervers par-dessus. Et petit à petit, il va se rendre compte que son fils est à l'origine de ces feux, en tout cas qu'il est à l'origine des vidéos qui donne envie aux gens de faire ses feux. Et ce papa revient sur son passé pendant les révoltes irlandaises où lui a été extrêmement violent. Et en fait, c'est le thème au cœur de ce livre, c'est est-ce que bah, la violence engendre la violence? Est-ce que l'amour engendre l'amour? Comment je peux aimer mon enfant qui me fait peur et qui à la fois... Et même s'il me fait peur, j'ai envie de le protéger. Enfin, c'est assez surprenant parce que bien que ça paraisse complètement farfelu, puisque petit à petit, on va aussi découvrir des enfants avec des dons particuliers. Une petite fille qui se transforme en bateau, un petit garçon qui a des roues à la place des pieds. Mais ça n'est absolument pas farfelu. C'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement bien écrit. Et on voit petit à petit se dessiner ce que c'est que d'être un papa. Et je pense qu'on a... peu d'écrits sur les papas. Et là, c'est vraiment un livre sur les pères. C'est un livre sur les séparations. C'est un livre sur la violence. C'est un livre sur tout un tas de sujets et qui a un parti pris, c'est d'être en décalage
sur un côté, en gros décalage avec la réalité, tout en l'assumant complètement. Mmh. Enfin, c'est une lecture assez surprenante. Je ne sais pas si je le conseille ou si je le déconseille. En tout cas, c'est une curiosité.
Ça a l'air d'être un sacré
ovni. Oui, c'est un ovni.
Alors, pour information, donc ça se passe le 12 juillet 2014. Il faut savoir que chaque 12 juillet, la ville 11. De Belfast, et il y a eu des nuits d'émeutes en juillet 2013. C'est des marches protestantes. Il y a des défilés protestants par rapport à toutes les violences qu'il y a eu chaque 12 juillet. Donc, je pense que l'auteur, il est parti de ça en disant. Mais c'est des marches qui auraient pu dégénérer.
Il a peut-être un peu extrapolé.
Il a extrapolé, mais ça se base sur un truc. Voilà, tu vois, les marches orangistes mettent le feu à Belfast. C'est un article de 2013. Donc
c'est
voilà.
C'est l'11th night. Et en 2014, la police, pour la première fois, est intervenue. Merci Wikipédia. Parce que justement, ils avaient vraiment exagéré les feux. Donc, c'est la première année, en fait, où la police a dû intervenir et interdire, justement, s'il y avait des impacts environnementaux forts. Ils avaient brûlé les pneus, tout
ça. On y revient à l'environnement.
Oui, non, mais la révolte passera par l'environnement.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce livre de 2021 était finaliste des prix Femina et du prix Médicis étranger. Donc pas mal quand même.
Il est quand même étonnant. Enfin, on n'arrive pas à
saisir là où ça va. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé, donc je ne peux pas vous dire là où ça va.
Je vous laisse
la surprise.
On n'a pas le droit de le dire, à part Marlène qui prend ses aises avec ses livres pour les 0-3 ans. Allez Valérie,
je ne savais pas qu'elle parlait d'Irlande ce soir, Pauline, et je me suis dit, j'avais l'impression que mes livres n'étaient pas assez engagés. Et pour le book club, English Book Club, on doit lire Paul Lynch avec le chant du prophète.
Ah, donc tu recycles les livres?
Non, on n'a pas encore fait l'émission, on n'a pas encore fait le book club. C'est The Prophet's Song, puisque c'est le English Book Club. Donc là, je vous ai fait la chronique en français. Et c'est ce que j'avais écrit pour la chronique que je dois translate in English, c'est « Et si tout commençait presque sans bruit ?» C'est un roman qui raconte la chute d'un pays, mais pas vraiment la chute d'un pays. Il raconte surtout comment on comprend que c'est trop tard, que la chute est passée et qu'on a loupé le coche. Donc le livre commence, donc on est en Irlande, on est à Dublin, il pleut, enfin vraiment on est dans un cliché total. Et on toque à la porte de chez Eilish. Et quand ils ouvrent la porte, deux hommes arrivent et en fait c'est la nouvelle police secrète. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez malsain qui se passe. Et ils veulent voir Larry, le mari d'Eilish, qui lui est enseignant, mais syndicaliste. Sauf qu'il n'est pas là. Le lendemain, donc Larry se présente au commissariat, dit « la police secrète veut me voir ». Sauf qu'il n'en reviendra pas. Alors au début du livre, on se dit « il n'y a pas de où elle est la révolte, où elle est l'insurrection, enfin qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne va pas revenir. Il n'y a pas de grande guérilla, il n'y a pas de violence, mais il y a des signes. À la télévision, on parle de manifestations au loin. Dans les rues, on sent que les gens sont un peu en colère. Il y a des arrestations, il y a quelques personnes qui disparaissent. On entend parler de camps d'enfermement, mais c'est des rumeurs. Et en fait, on sent que, et dans le livre, c'est écrit comme ça, quelque chose est en train de se refermer. Et ça me fait penser au livre d'Alain Mascaro, c'est « Avant que le monde ne se referme », qui prévoyait la Seconde Guerre mondiale en Roumanie. Et là, on se dit « Waouh, il se passe quelque chose ». Et là, Eilish, on se dit son mari était syndicaliste, il a disparu, elle va se rebeller, elle va engager quelque chose. Non, elle poursuit son quotidien, elle s'occupe des enfants, elle va voir son papa qui est malade. Elle est comme passive par rapport à ça, mais elle cherche quand même au fond d'elle. Elle pose des questions et plus elle pose des questions... Plus elle a des silences, les avocats ne lui répondent pas, l'administration n'est pas au courant, ni même jusqu'à l'existence de cette police, et les gens commencent à la fuir. Et pendant ce temps-là, petit à petit, l'insurrection arrive, l'état d'urgence est déclaré, de plus en plus de contrôles, on rentre dans un état très liberticide, on ne peut plus circuler, on ne peut plus penser, on ne peut plus parler librement. Et en fait, ce qui est terrifiant dans ce livre, c'est que le moment où on arrive à cette rupture, le moment où les gens commencent à résister, à faire des manifestations, à rebeller, c'est trop tard. Je ne peux pas aller plus loin dans la description de ce livre, parce que justement, je l'ai marqué là. Je n'en parle pas plus quand j'en parle à l'English Book Club.
Oui. C'est quand l'English Book Club?
C'est on Friday, on April, I don't know the chiffre. Voilà. Je suis la seule qui ne sait pas parler anglais à l'English Book Club. Voilà, mais I read it in English.
Ah, bien.
C'est quand même...
c'est bien ça.
Voilà, donc en fait, c'est le... on se rend compte petit à petit, quand cette guerre arrive, c'est ça, ce qui est très dérangeant, c'est que Paul Lynch, il nous met dans une situation où c'est trop tard, où finalement on subit cette répression, on subit cette violence, on subit cette guerre civile qui éclate, et on se dit mais voilà, est-ce que c'est pas déjà trop tard tout ça? Et en fait c'est nos personnages qu'on suit, donc Eilish, tout ça, il raconte ce régime qui bascule, mais c'est le moment. Et le moment où on n'a pas su voir, on n'a pas ressenti, le moment où on s'est dit on aurait dû se révolter, mais on ne l'a pas fait. Et en fait, voilà, et comme phrase de fin qu'il faut que je traduise, s'il y a quelqu'un qui parle couramment anglais qui peut m'aider, c'est quelquefois, le courage, c'est tout simplement de continuer à avancer quand tout s'effondre.
C'est beau. Je ne traduirai pas. Non,
tout ça donné sur un petit cahier à Agnès Varda.
Ouais, c'est mon cahier Agnès.
Super, mais merci beaucoup.
Non, mais voilà, c'était une révolte émission, sans c'est révolte. Très bien.
Ouais, ouais.
Une révolte trop tard.
Super. Elodie, on n'a pas le prochain thème. Je m'adresse à toi, vu que c'est toi qui choisis les thèmes dans ces émissions. Elle a pris la main. T'as vu, elle est arrivée cette année. Boah, 6 mois après, elle choisit les thèmes.
C'est ça, d'être un leader.
Oui, mais c'est bien, le charisme.
On réfléchissait au silence comme thématique.
D'accord. Ouais, moi, j'aurais bien aimé me poiler là, prochainement. Là. On a que des
l'humour,
trucs sérieux.
Un truc spécial Fab Caro.
Ouais.
On va y réfléchir autour d'un verre.
On va y réfléchir. On reste un peu ensemble, on y réfléchit. Allez, merci à tout le monde. On a eu une semaine de retard à cause d'élections municipales, mais on a quand même été de retour et on sera de retour tous les troisièmes mardis du mois, dès à présent, jusqu'à fin juin, avant la pause estivale. Donc, il ne nous reste pas beaucoup d'émissions quand même. On est mars, avril, mai, juin, 3 émissions.
Que ça ?
Et ouais, 3 émissions avant de se reposer hein, jusqu'en septembre. Hein, et on fera peut-être la dernière dans un bar sur un zinc, parce que c'est quand même le nom de...
Oui, c'est le nom de l'émission.
Allez, merci mesdames, et on va partir avec un grand rebelle pour ce jingle final qu'on a l'habitude d'entendre dans cette émission.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.